puisque c'est l'heure de l'ouverture à Wall Street. Étienne Brack est en duplex d'Euronext. John Plassard, comme tous les jours, spécialiste en investissement chez Mirabeau, est avec nous aussi. Bonjour messieurs, merci d'être en notre compagnie, de nous accompagner tout au long de ce début d'émission. Étienne, je commence avec vous. On a vu à la publication des chiffres de l'inflation américaine, les futurs américains se réveiller, et puis les indices européens aussi accélérer leur hausse, hein, puisqu'un rebond avait déjà eu lieu en début de journée. Qu'est-ce que ça donne à l'ouverture ?
Très clairement, il y a eu un avant et après 14h30, hein, que ce soit sur les futurs américains, mais aussi sur l'obligataire. Hein. Regardez le 10 ans américain qui se détend d'une façon spectaculaire, puisqu'il perd un peu plus de 12 points de base à l'heure actuelle, 4,28, quand le 2 ans de son côté perd 8 points de base, 20 points de base pardon, à 4,68. Hein. Donc suite à cela, vous avez les indices qui se sont mis à grimper d'une façon spectaculaire, notamment les valeurs de croissance. L'indice Nasdaq surperforme très clairement à l'ouverture, avec une hausse de 1,1%, quand le Dow Jones de son côté prend 0,8% et retrouve la barre des 39 000 points, quand le S&P de son côté est en hausse de 0,9% au-delà des 5 400 points, 5 423 points, avec également des publications rassurantes. Dans un instant, John nous parlera d'Oracle, mais la valeur gagne quand même un peu plus de 10%, donc ça c'est une bonne nouvelle pour l'ensemble du secteur technologique. À noter les cours du pétrole qui, comme hier, continuent de grimper, $83 pour le baril de Brent, c'est une hausse de 1,5%, plus 1,6% pour le WTI à $79, et puis l'euro qui avait baissé en début de semaine à l'issue du scrutin en Europe, eh bien se reprend, hein, avec le dollar qui est en baisse face à un bon nombre de devises, avec notamment l'euro-dollar qui se retrouve aujourd'hui à 1,0835. C'est une hausse de 0,9%, ce qui est tout de même notable. Et donc Wall Street qui ouvre en hausse, proche de ses records historiques, avec des hausses comprises entre 0,7% pour le Dow Jones et 1,2% pour l'indice Nasdaq, avec donc une inflation américaine qui ressort meilleure qu'attendue.
Et pour ce qui est de Paris, donc Paris, on accélère la hausse. On était déjà en phase de rebond après deux séances de baisse consécutives. Et là, ça va plutôt bien. Hein.
En effet, après avoir perdu quasiment 3%, 2,7% pour être précis, en l'espace de deux séances, le CAC 40 reprend 0,8% et retrouve les 7 800 points, 7 848 points, des volumes qui sont présents comme ces derniers jours, et les valeurs qui ont fortement baissé se reprennent aujourd'hui, à l'image de Vinci ou encore le secteur bancaire qui prend quasiment 2% en milieu de journée.
Merci beaucoup Étienne, vous restez avec nous hein, tout au long, non seulement de cette demi-heure, mais aussi de BFM Bourse. John, donc, que faut-il penser de ces chiffres de l'inflation, cette inflation qui se calme aux États-Unis au mois de mai, et puis en quoi ça peut influencer justement la Fed dans ses futures décisions sur ses taux ?
Écoutez, c'est des très bonnes questions, Vincent, mais je reviens juste aux chiffres. Il faut regarder qu'au niveau mensuel, en mai, eh bien, l'indice des prix à la consommation n'a pas bougé. 0% par rapport au mois précédent. On est au plus bas depuis juillet 2022. Au niveau annuel, on passe de 3,4% à 3,3% en mai. Vous me direz, c'est pas beaucoup, mais c'est au-dessous de ce que pensait le consensus. Si on gratte un peu dans les chiffres, on voit que les services de base ont augmenté de 0,2% sur le mois, avec une hausse de 0,4% pour le logement. D'un autre côté, vous avez les biens de base qui sont restés stables. Donc, ce qui est très intéressant de noter, c'est que ce sont les services hors logement qui se sont modérés ce mois-ci. Et c'est une très bonne nouvelle, parce que c'était cette catégorie qui était responsable d'une grande partie de la surprise lors du premier trimestre où on avait eu la hausse des prix. Donc, ça confirme le discours de la Fed comme quoi l'inflation remonterait en début d'année pour après baisser, et donc c'est une excellente nouvelle pour la Fed. Il y a juste une chose à savoir, qui est une chose un peu technique, Vincent, c'est que ces chiffres qui ont été publiés à 14h30 étaient déjà à la disposition des membres de la Réserve fédérale américaine hier, donc au début de la réunion de la Fed. Et donc, ce ne sera pas vraiment une surprise pour eux. Ils ne devraient pas changer leur discours depuis les chiffres qui ont été publiés à 14h30. Et donc, qu'est-ce qu'on a vu directement sur les futurs ? Eh bien, on a une porte ouverte sur une baisse de taux en septembre, mais une baisse de taux en novembre est maintenant anticipée à 100%.
Anticipée à 100%. Baisse de taux. Donc, vous venez de combien de baisses de taux d'ici à la fin de l'année ?
Alors, pour l'instant, c'est un peu plus d'un et demi. Alors, ça ne veut absolument rien dire parce qu'il n'y a pas un demi-point. mais ce serait septembre et novembre si.
Septembre et novembre, d'accord.
Et ce qui est très intéressant de noter, c'est que je vous rappelle, Vincent, que ce soir, on aura les fameux nuages de points.
Mais voilà, les dot-plots, j'allais vous demander.
Exactement.
Qu'est-ce qu'on cherchera à lire dans ce nuage, justement ?
Bah écoutez, ce qu'il faut voir, c'est que lors de la dernière publication de ces nuages de points, eh bien, on avait des anticipations de 3 baisses de taux cette année. Eh bien, on devrait revenir à 2 baisses de taux. Et donc, ça devrait être tout à fait en ligne avec ce qu'anticipe le consensus actuellement. Et si, eh bien, la Fed, ce soir, répète une nouvelle fois que les progrès sont faits face à l'inflation, eh bien, le marché devrait voir ça de la manière d'un demi-verre plein et le marché pourrait continuer à monter tout comme il le fait actuellement après la publication de ces chiffres de l'inflation.
Voilà, plus on anticipe des baisses de taux de la Fed, plus les marchés actions apprécient et tout se clarifie assez rapidement, semble-t-il. Hein, parce qu'il y a encore quelques semaines, on se disait peut-être qu'il n'y aura pas du tout de baisse des taux d'ici à la fin de l'année aux États-Unis. John, Étienne, une question pour vous concernant Apple.
Apple qui n'en finit plus de grimper puisqu'après une hausse de quasiment 7% hier, vous avez la valeur qui reprend un peu plus d'1,5%. John, la valeur est tout simplement sur un plus haut historique. Hier, elle a gagné quasiment 200 milliards de valorisation boursière au point qu'Apple repasse devant Nvidia.
Oui, c'est absolument fou ce qu'on peut dire d'Apple. Vous l'avez dit, nouveau record historique aujourd'hui, nouveau record historique hier. On a un prix par action qui est passé hier au-delà de $200 pour la première fois de l'histoire, si on tient compte des splits. On a la capitalisation boursière qui a bondi hier, tenez-vous bien, de 215 milliards de dollars pour atteindre 3200 milliards de dollars, ce qui la classe parmi les 10 plus fortes hausses quotidiennes de l'histoire. Et vous l'avez dit, eh bien, Apple, plus on monte et plus elle monte plus rapidement que Microsoft, eh bien, Apple a réduit de 50 milliards l'écart entre sa capitalisation et la capitalisation de Microsoft, qui est la plus grande entreprise du monde. Et il se détache maintenant un peu plus d'Nvidia parce qu'il y a un écart de 200 milliards de dollars. Et juste une dernière chose, puisqu'on parle d'Apple, mais aussi d'Nvidia et d'autres valeurs, eh bien, tenez-vous bien, depuis octobre, les fameux 7 magnifiques qu'on avait enterrés, eh bien, ont ajouté, tenez-vous bien, 5 000 milliards de dollars de capitalisation boursière au marché américain. C'est absolument fou et incroyable.
Voilà, ce sont des trilliards là, à ce niveau-là. J-146, John, avant les élections américaines. Et dans le cadre de ces élections américaines, il y a quand même des difficultés qui s'annoncent pour le camp Biden, puisque son fils, hein, Hunter, eh bien, est condamné pour détention illégale d'armes à feu. Quelles conséquences pour la campagne de son papa?
Alors, d'abord, il faut rappeler que c'est le premier procès d'un enfant de président en exercice. Hein. Ça, c'est très important de le noter. On n'en parle pas assez. Il faut aussi rappeler que Hunter Biden, le fils de Joe Biden, risque jusqu'à 25 ans de prison. Ça ne devrait pas être le cas, mais pour 3 chefs d'accusation. Et il faut rappeler une chose ici dont on ne parle pas en Europe, c'est que les Républicains ont toujours bien aimé taper, si je peux dire comme ça, sur le fils de Joe Biden, Hunter Biden, qui était un point d'attaque des Républicains. Il faut savoir qu'un des enfants de Joe Biden est mort d'un cancer il y a quelques années de cela, et c'était une question évidemment très sensible lorsqu'on parle de ces enfants. Il faut rappeler que dans quelques semaines, Trump et Biden vont participer à leur premier débat présidentiel, donc évidemment il faut s'attendre qu'il y ait beaucoup de questions concernant le fils Trump. Et chose très importante aussi, c'est que Hunter Biden doit aussi être jugé pour fraude fiscale fédérale dans une autre affaire en Californie en septembre, 5 jours avant le deuxième débat présidentiel. Alors, les impacts, évidemment, on a l'impression que ce sera mauvais pour Joe Biden, mais tenez-vous bien, Vincent, eh bien, vous avez les politologues américains qui disent que c'est plutôt une mauvaise nouvelle pour Donald Trump. Pourquoi ? Parce que juste après son procès, vous vous souvenez qu'il avait dit que la justice américaine était corrompue. Et donc, évidemment, avec une condamnation du fils du président en place, eh bien, il ne peut plus tenir cette rhétorique. Et donc, Donc, pour l'instant, on verra dans les prochains sondages, mais pour l'instant, eh bien, c'est balle au centre.
Très bien. John, une dernière question qui nous vient d'Étienne pour vous.
En effet, avec Oracle. Mais juste avant, mon cher Vincent, priorité au direct. Rendez-vous compte, Apple, ça y est, devient la première capitalisation mondiale avec un gain de 2,5%, 2253 milliards de dollars contre 2236 pour Microsoft. Voilà, aparté fait sur Apple qui retrouve sa place de leader en bourse. Mais oui, mais Oracle, en effet, qui fait également l'actualité aujourd'hui avec là une hausse bien plus importante qu'Apple, puisque Oracle prend un peu plus de 10%. Là, comme pour Apple, c'est l'intelligence artificielle qui fait rêver Wall Street, John.
Oui, bah écoutez, Vincent, ce qui est très drôle, c'est que si vous regardez les résultats, eh bien, ils sont en dessous. Le bénéfice net est en dessous du consensus. Le bénéfice ajusté est en dessous du consensus. Les revenus ont augmenté de 3%, mais c'est en dessous du consensus. Mais, bien évidemment, ce sont les perspectives. Et tenez-vous bien, les perspectives dans l'intelligence artificielle, eh bien, c'est des contrats qui ont été annoncés hier soir avec Google et avec Microsoft. Et donc, Oracle, suite à ça, prévoit que la croissance du chiffre d'affaires du premier trimestre sera de l'ordre de, c'est avec un trimestre décalé, de 5 à 7%. Et puis, le cloud est anticipé en croissance de 21 à 23%. C'est au-dessus de ce qu'on attendait pour les prévisions, mais les résultats eux-mêmes n'étaient pas très bons.
John Plassard, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour ce Hello Wall Street, spécialiste en investissement chez Mirabeau. Et Étienne Brack, à tout à l'heure, hein, lors de la prochaine demi-heure. Et puis d'ici à la fin de l'émission, vous nous accompagnez pour nous donner des nouvelles de la Bourse de Paris.